Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'ActuTech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, les amis Damien Douani. Salut Damien.
Bonsoir François.
Responsable de l'innovation de l'école narrative, fondateur du cabinet Topos. Le petit t-shirt qui va bien si vous êtes avec nous à la télé. Pac-Man, Fred, on s'en souvient. Oui, qu'est-ce qu'on a pu cramer l'argent de poche avec Pac-Man à l'époque. Parce que moi, à l'époque, Pac-Man, c'était payant, les amis. Il y avait les bornes d'arcade et on mettait les pièces de 1 franc.
Pac-Man, Space Invaders.
Galaxian. Il faudrait qu'on fasse un Tech & Co spécial arcade un jour.
Mm-hmm. Et là, ouais, il faudrait faire ça sur les 50, les 40, 50 ans de ces personnages-là.
Ça serait pas mal, ça, quand même. Merci en tous les cas d'être là, Damien. Je ne sais pas si c'est un gamer, Thomas Serval. Tiens, tu as joué, toi aussi, à ces petits jeux?
Je me suis usé les poignets, j'ai cassé des joysticks en pagaille.
Grande époque. Thomas Serval, PDG de Barracoda, fin connaisseur évidemment de la culture tech, à la fois française mais aussi mondiale, puisque tu as travaillé dans de très grosses boîtes américaines. Merci d'être là, Thomas. Et puis Frédéric Simotel, qu'on ne présente plus, mon Fred, tout va bien ?
Bonsoir à tous, mais tout va bien, oui.
Voilà, journaliste à BFM Business. Allez, un petit coup de taxi, on y va pour commencer ? Pas n'importe lequel. Puisque vous le savez, Elon Musk lance officiellement son service de taxi sans conducteur. Cette nuit à Austin, donc au Texas, les premiers clients ont pu circuler dans des Tesla autonomes. Mais le lancement s'est fait de manière plutôt timide. Anthony Morel nous raconte tout ça, c'était ce matin dans Good Morning Business.
Moi, ce que j'appelle un lancement en petite pompe. Voilà, ouais, c'est pas la grande pompe, toute petite pompe. Alors, Elon Musk a quand même partagé plein de vidéos sur son compte X de clients, des premiers clients qui se sont assis à l'arrière d'une Tesla autonome.
Qui sont des influenceurs, en fait.
Ben, c'est ça. Alors, c'était l'un des éléments qui sont un petit peu décevants. En tout cas, qui sont pas à la hauteur des ambitions qui sont affichées par Elon Musk sur ce projet. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, je le rappelle, c'est de lancer une flotte de taxis complètement autonomes qui seraient des cybercabs. Les voitures qui ont été présentées au mois d'octobre dernier, c'est-à-dire des voitures sans volant ni pédales, complètement futuristes. Là, c'est pas ce qu'on a vu. Là, c'est un lancement d'abord dans un périmètre très restreint de la ville d'Austin au Texas. C'est une dizaine de voitures seulement, donc toute petite flotte. Effectivement, les invités triés sur le volet, c'était pas monsieur et madame tout le monde qui pouvaient commander via une application. C'était des influenceurs, des gens qui sont plutôt pro-Tesla et qui allaient donc afficher des avis plutôt positifs. Donc ça fait quand même beaucoup. Et puis alors la voiture, c'est pas le cybercab tel qu'il nous l'avait été promis. Il est pas prêt industriellement. Il sortira l'an prochain. Donc là, c'est des banales Tesla Model X, donc des voitures qui existent déjà dans le commerce aujourd'hui, qui arrivaient, alors effectivement, avec personne derrière le volant, mais il y avait quand même quelqu'un sur la place du passager. Il y avait un superviseur humain.
C'est un peu troublant.
Ça casse un peu le mythe, quoi. On vous dit, ouais, ces voitures autonomes.
Ça permet de discuter.
Ça permet de discuter, c'est vrai. Ça permet aussi, s'il y a un problème, que quelqu'un puisse reprendre la main, reprendre le volant. Bon, on sait que la technologie autonome de Tesla, elle s'est beaucoup améliorée. Le système FSD, Full Self-Driving, on l'a vu en action il y a quelques semaines. Vous vous souvenez, on avait parlé de cette vidéo Place de l'Étoile à Paris, le rond-point, alors qui est vraiment le test ultime pour la voiture autonome. Ça fonctionne. Mais bon, maintenant, va falloir aller un petit peu plus loin. Bon, Elon Musk l'avait dit, il va faire ça étape par étape. Il joue aussi sa réputation sur ce projet. Et donc voilà, c'est le lancement, mais petit lancement avant de monter en puissance dans les semaines et les mois qui viennent.
C'est ça aussi le marketing, les amis. Alors même si c'est un petit lancement de rien du tout, avec 10 voitures, je crois, qui sont en train de rouler dans un quartier d'Austin, vraiment. C'est vraiment un lancement en catimini, mais il tient bon, hein, Elon Musk. Il avait promis un lancement assez rapide.
Fin juin.
Même si, on le dit, c'est un tout petit lancement en petite pompe, comme l'a dit Anthony Morel. Mais c'est intéressant parce que ça prouve en tous les cas que la Model 3, puisque ce sont des Model 3 hein, qui tournent là, si elles ont la dernière mise à jour, elles sont totalement autonomes, ce qui était déjà plus ou moins le cas finalement aux États-Unis. On était obligé de tenir le volant, je crois, pendant quelques secondes, etc. Mais là, voilà, on se rapproche petit à petit de ce graal de la voiture autonome. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas ? Toi, t'es un peu dubitatif, visiblement.
Non, mais moi, j'ai une Model 3, donc je hors d'Europe, donc j'ai pas le FSD. Mais par contre, ce qu'on voit à chaque fois sur les voitures autonomes, c'est il y a trois paramètres à contrôler : le conducteur, les autres conducteurs et l'état de la route, l'environnement.
C'est ça.
Et aujourd'hui, on sait résoudre 2 sur 3. Donc, il faut choisir ce qu'on choisit. Soit il n'y a plus d'humain du tout et le truc...
marchera bien. Ouais. Tu veux dire, le robot contre l'humain, c'est pas bon.
Ce qui est pas bon, c'est de... Le robot contre l'humain, ça va, mais il faut connaître parfaitement l'environnement. C'est le cas de ce qui est montré là. C'est en fait, et pourquoi il le lance à Austin dans un petit truc? Parce qu'Austin, c'est quand même assez très rectangulaire et voilà. Donc ils ont mappé Austin. Ils ont mappé Austin à la rue près, au centimètre près, et donc la voiture est dans un environnement qui est très contrôlé. Ouais. Et c'est pour ça que finalement aujourd'hui les robots taxis mettent du temps. Alors moi j'ai essayé la Waymo de Google à San Francisco où ils ont effectivement mappé San Francisco comme des fous et c'est très impressionnant. Il faut voir que ça fait quand même presque 2 ans que ça tourne sans problème. Ils ont enlevé Los Angeles mais parce que ça tournait trop bien et qu'elle se faisait taper. Donc quelque part le rêve du robot taxi avec la conduite complètement autonome, il commence à être vrai dans un environnement bien contrôlé. On n'a pas besoin, ça c'est vrai, d'avoir quelqu'un à côté parce que maintenant par contre ils ont des centres de supervision, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas la personne à côté mais derrière il y a quand même les caméras qui sont regardées par une sorte de centre de sécurité quand il y a un problème. Et en fait il faut voir que c'est quand même Google qui a vachement parce qu'on parle de l'avance de Tesla, là c'est plutôt un aveu de faiblesse. Google a des centaines de voitures partout et là on voit Tesla avec...
Après le coût de la voiture n'est pas le même. J'ai l'impression que les voitures Google coûtent beaucoup beaucoup plus cher que les Tesla en fait.
Oui, et puis surtout, c'est des voitures de série, là. Donc, pas de série.
J'en sais rien.
Justement, c'est des voitures qu'on peut acheter, même si c'est peut-être pas exactement équipé pareil.
Ouais, peut-être qu'il y a des capteurs en plus, en fait.
C'est possible. Non, très certainement. Les Waymo, aujourd'hui, elles sont équipées, elles sont faites pour cette fonction-là, c'est ça que je veux dire. Mais effectivement, oui, c'est un lancement, on va dire, histoire en bêta, ou même peut-être en alpha, histoire de tester le truc et vérifier que ça fonctionne bien. Mais bon, pourquoi pas? Mais effectivement, c'est un aveu de retard, oui.
Par contre, il est revenu. Enfin, l'autre chose qu'il faut quand même reparer, excuse-moi, c'est que Elon, qui était quand même en train d'essayer de faire autre chose, là, il revient. Je pense que tous ses actionnaires demandent à la tête de Tesla, en train d'essayer de livrer les promesses qu'il a faites depuis des années.
Je pense que c'est pour moi, j'aime un petit risque. Parce que petit risque, effectivement, on l'a dit, hein, le quartier délimité, des gens sélectionnés sur le volet. Gros pari, parce qu'on est quand même au début du robot taxi, enfin annoncé par Elon Musk. Et puis on parle de la concurrence Waymo, mais il faudrait peut-être parler de la concurrence chinoise aussi, qui est ultra présente. Et puis je pense que pourquoi il le fait aujourd'hui, c'est parce que là, il faut relancer Tesla, il faut relancer les investisseurs, il faut rassurer pas mal le marché, la valeur. C'est important aussi de voir, parce que si ça commence à bien marcher, s'il n'y a pas d'accident majeur, la valorisation va encore grimper d'un cran. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'images. Et la preuve, on en parle nous-mêmes ce soir, on va avoir plein d'images, les influenceurs vont poster comme des fous, ça va être ça va leur apporter tout ça. Et je pense, voilà, il a besoin de sortir ça en ce moment-là. Il l'avait dit en juin, mais avec toutes les histoires qu'il y a eu de politique, et puis on a vu Tesla en France, ils ont vendu, enfin au mois de mai, je crois qu'ils vendent 600 ou 700 voitures quoi, au mois de mai, et qui étaient commandées bien avant. Enfin, c'est un peu dramatique ce qui est en train de se passer au niveau de Tesla. Donc là, pour moi, ça c'est quelque chose qui arrive au bon moment. On parle de monétisation aussi, parce que la course n'est pas gratuite. Ouais. Hein, même si les gens sont tristes sur le volet, alors ils payent ces 5 $. Enfin, c'est vraiment.
C'est symbolique.
C'est symbolique, mais ça permet aussi de voir
comment ça se passe,
comment on va monétiser tout ça.
Après, il faut, je te coupe 2 secondes. C'est vrai que en plus, ce test, enfin cet alpha test, se fait dans des conditions un peu particulières. Ce sont des utilisateurs pro Tesla, c'est-à-dire qu'il est allé recruter des fans de Tesla qui diront jamais du mal de la boîte. Vous savez qu'il y a une communauté fan de Tesla, notamment sur YouTube, qui est monstrueuse.
Pas que sur YouTube.
Et pas que sur YouTube. Mais
c'est pas égratigné sur X, hein, parce que.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu te fais incendier. Ils sont briefés par des équipes responsables du projet en amont de leur course pour les prévenir que voilà, etc. Ils sont dans un environnement qui est vraiment fermé de Tesla.
Ceinture et bretelles. Hein.
La météo est bonne.
Supervision à bord, supervision à distance.
Téléopérateur.
Alors, il faut savoir que la réglementation aujourd'hui, elle change en septembre a priori. Alors, faut voir un peu comment ça va être voté, mais il y a une réglementation qui ne permet pas aujourd'hui, de toute façon, d'avoir personne à bord. La voiture ne peut pas encore rouler toute seule. Donc il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Mais voilà, c'est un message envoyé à la fois aux investisseurs, un message envoyé aussi aux concurrents chinois, notamment pour leur dire ça y est, je suis sur la voie.
Moi, je suis monté plusieurs fois dans des Waymo à San Francisco, ça marche super bien. Il faut voir qu'aujourd'hui, les conducteurs... les gens qui utilisaient Uber à San Francisco, ils préfèrent Waymo. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, finalement, c'est safe. Il n'y a pas eu d'accident majeur. La voiture coûte une blinde, mais ça, Google a les moyens, donc c'est pas très grave. Donc, vu du consommateur.
Ouais, c'est l'ordre de 450 000 dollars, quelque chose comme ça. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que carrément, dans le centre de San Francisco, t'as même plus beaucoup de. T'as 800 ou 900 Waymo qui tournent, et t'as plus beaucoup de taxis traditionnels.
Une des choses intéressantes, c'est que le plus gros problème encore pour ces voitures-là, c'est l'endroit où ils vous déposent et l'endroit où ils vous chargent. Et donc, en fait, par exemple, une Waymo ne s'arrête pas n'importe où.
Non. Elle a des points de chargement. D'atterrissage, en quelque sorte.
Exactement. Mmh. Donc, on est en train d'y arriver. Moi, je suis quand même, enfin, pour être un grand fan de Tesla depuis des années, il est très, 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 très en retard sur ses promesses. Et on ne parle pas encore de full self-driving. Donc, on est encore quand même très loin de la promesse.
Ouais.
Il a fait le choix dès le départ de ne pas avoir de caméra, hein, puisque c'est pour ça que ces voitures
coûtent. Non, c'est de lidar. Parce qu'il a fait le choix d'avoir justement, il n'y a que des caméras dans les Tesla. Il n'y a pas de lidar.
Et pour une raison simple, qui est qu'il mise sur l'image, sur l'analyse d'image, parce que c'est la même chose. Derrière ça, il peut développer ça, l'intégrer dans du Optimus, il peut l'intégrer dans plein de choses.
Et puis le coût,
ça coûte moins cher. Mais c'est plus long à entraîner. Ça peut être plus versatile, donc il y a cette difficulté là.
Thomas, tu pourras réagir.
Lidar, maintenant, ça coûte plus très cher du tout. Mmh. Alors il faut savoir que la première génération de 2019, elle avait quand même des radars. La Tesla Model 3 2019, elle avait quand même des radars. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel ne les utilisait plus. Donc en fait, elles savent plus se garer les 2000. Donc, aujourd'hui. C'est une légende que les lidars coûtent très cher.
Moi, j'ai regardé les tarifs, tout ça.
Est-ce que ça coûte pas plus cher qu'une caméra quand tu sais que...
Bien sûr.
Ce que je veux dire par là, c'est que
c'est pas 10 000 dollars. On parle de 1 000 dollars. Une caméra, c'est quelques dizaines d'euros.
Pour ça, ils utilisent.
Ouais, mais ça fait peut-être la différence en termes de prix. Enfin, c'est là où tu peux arriver à faire baisser le prix de ta voiture.
On est entre 5 000 dollars pour. Parce que j'ai regardé là sur ce qu'ils utilisent. 5 000 dollars pour les lidars et on est à moins de 800 dollars pour la caméra Tesla. Tu vois, il y a encore. Un rapport.
Oui, c'est un rapport 10.
Et surtout, il y a un choix technologique de se dire que sur du long terme, le chemin est plus long, mais en termes d'analyse, d'image et de technicité, on va dire, ça peut être une barrière à l'entrée intéressante pour Tesla. Juste pour revenir sur la voiture, là aujourd'hui, c'est donc un modèle. Pas de série, mais tout au moins équipé d'une voiture de série peut-être un peu pimpée. Mais l'objectif quand même, c'est de tester et l'appréhension du marché et des utilisateurs pour l'arrivée du vrai robot taxi qu'on voit, pour ceux qui nous regardent derrière les images, derrière sur les murs d'écran, le robot taxi qui était d'ailleurs un Vivatech, si je dis pas de bêtises, et qui est vraiment la vraie promesse finale. Ouais. Et il y a un deuxième truc aussi, tu parlais de modèle économique, ou c'est toi Fred qui parlais de modèle économique, il y a aussi la promesse derrière de dire que les utilisateurs de Tesla vont pouvoir louer leur Tesla en journée, ils ne l'utilisent pas. En clair, ils arrivent au bureau, ils la posent. Ben leur Tesla peut aller se balader quelque part et faire un petit tour et déposer quelqu'un. Et puis le soir, ils les retrouvent quand même au même endroit.
C'était ce qu'il avait voulu dès le départ. Hein.
C'est la vision.
C'est une mobilité partagée. Quoi. Mmh. On n'achète plus de voiture, on achète une mobilité.
Oui. Bon, écoutez, on va voir si son idéal de pouvoir comme ça avoir des Tesla sans chauffeur que l'on pourrait commander, parce qu'on l'a pas dit, mais en théorie il y a une appli qui a été dédiée pour ça, qui fait que vous êtes à un endroit un peu comme un Uber quoi. Et dès que vous avez des Tesla qui tournent autour de vous, vous confirmez votre commande, la voiture arrive et vous emmène d'un point A à un point B. Ça va être intéressant de voir. Et puis en plus, d'après ce que j'avais compris, je sais pas si ce modèle tiendra toujours la route, c'est que sa voiture peut appartenir à des particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire que votre voiture elle est utilisée que 2 heures par jour, le reste du temps vous la mettez en partage pour que vous puissiez la rentabiliser.
La mobilité partagée, là c'était son modèle.
C'était ça.
En plus il faut vraiment voir pour ceux qui utilisent des Waymo ou d'autres véhicules, aujourd'hui c'est une vraie conduite souple qui sait s'arrêter, ralentir, enfin qui sait s'arrêter, ralentir évidemment, mais
il vaut mieux.
Ça change. Il y a encore un an et demi, deux ans. On avait des à-coups, il y avait un peu de tangage parfois parce que
c'était un peu robotique.
Et là aujourd'hui, c'est quand même impressionnant de voir la souplesse de conduite.
C'est intéressant. Aujourd'hui, si on regarde le marché du robot taxi, il y a Waymo qui est le leader, puis après il y a Tesla qui va être le challenger.
Et les Chinois.
On parle dans l'univers, parce qu'en fait, en Chine, ça tourne depuis bien plus longtemps. Ouais. Maintenant, c'est intéressant de voir ce que va faire Google par rapport à ça, qui quand même a 7 ou 8 villes déjà, qui a le capital nécessaire pour aussi lutter. Donc c'est vrai que le bal s'ouvre en fait.
Il y a des concurrents. Amazon s'est positionné.
Il y en a beaucoup qui ont essayé et qui sont arrêtés. Par exemple, Uber avait racheté toute l'équipe et ils ont abandonné.
General Motors.
Il y a énormément de gens qui. Donc là, on est à un moment où qui est capable de sortir les choses, et ça a encore du mal un peu à scaler. Donc en fait, la question c'est à quel moment la promesse de ma voiture va fonctionner. C'est pour ça que j'ai pas l'info, mais je suis à peu près sûr que c'est pas une voiture standard.
Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on soit plus aussi. Alors, on les voit des navettes, hein. On en voyait pour ceux qui habitent Paris, qui tournaient autour de Roland-Garros. Il y avait des navettes autonomes qui tournaient. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on voit pas encore beaucoup de développement de navettes. Tu vois, quand on entend des villes qui veulent développer des tramways. Tu te dis, mais à quoi ça sert de développer des tramways aujourd'hui? Il suffit que je réserve les deux voies où je devais mettre mes rails et tout ça. J'achète cinq navettes et puis quand il y a moins de monde, j'en mets que trois. Quand il y a un peu plus de monde, j'en mets six. Elles roulent les unes derrière les autres. Elles s'arrêtent à des points destinés. Enfin,
rappelle-toi,
ça,
Navia.
Ça, c'est des choses. Je crois que les villes, elles doivent vraiment se poser la question.
Rappelle-toi, c'était Navia, si j'ai pas de bêtises, qui était à Lyon. Bah, ils ont pris de bouillon. Mm-hmm. Donc, preuve,
je pense que c'est pas trop cher encore.
Et voilà, mais c'est donc, il y a quand même un modèle économique aujourd'hui qui est pas vraiment stabilisé. Il y a des boîtes qui ont les moyens d'attendre que ce soit mature. Mmh. Donc il y a quelque chose. Tu as raison, au bout du bout. Mais pour l'instant, on sent encore on est un peu dans la zone de Far West. Hein.
Bon, on verra bien quand tout ça sera disponible en Europe, parce que arriver chez nous, entre la réglementation et nos manières de conduire,
elle va changer la réglementation en septembre. Ouais. L'Europe commence à libéraliser.
Il était
temps. Pour 2026, il y a volonté d'ouvrir complètement le marché à la voiture autonome.
Et attention, les Américains, ils sont pas aussi souples dans la réglementation.
Ah non,
tout à fait.
Non, c'est clair.
Texas,
non,
c'est pas gagné encore.
Ils sont plus proactifs, on va dire. Nous, on est un peu.
Et puis, ils légifèrent parfois après.
Ouais, c'est ça. Dans l'actu, les amis, deuxième titre qui est vraiment très intéressant, eh bien, c'est Apple. Apple qui, on le sait, on en parle souvent dans Tech & Co la quotidienne, ne semble pas véritablement en avance pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, notamment générative. Et il y a cette rumeur que Mark Gurman a saupoudré ce week-end et qui enflamme la toile, les amis, forcément, puisque Apple serait intéressé pour racheter Perplexity. Perplexity, on en parle de temps en temps dans Tech & Co la quotidienne, c'est une espèce de moteur de recherche boosté à l'IA qui vous permet d'avoir en fait une expérience de recherche qui est totalement révolutionnée par rapport à ce qu'on a avec Google. C'est-à-dire que vous tapez ce que vous voulez, vous pouvez taper des petites phrases et en fait le moteur de recherche va vous donner une réponse bien précise avec des liens qui confirment en fait la véracité de ce qu'il vous propose.
Il amène d'autres questions.
Ça révolutionne totalement la manière dont on recherche sur Internet. Et voilà que Apple serait intéressé par ce rachat.
C'est assez logique.
C'est pas une surprise.
Vous êtes tous les deux d'accord.
Logique.
Quand je dis c'est pas une surprise, c'est logique.
C'est une surprise parce que Apple n'aime pas acheter des grosses boîtes.
Non.
Pour voir que Apple.
Là, il mettrait combien sur la table? On parle de 14 milliards.
Mais
c'est rare des acquisitions de 14 milliards.
Non, c'est la plus grosse de
l'histoire. C'est jamais arrivé.
La Valo, c'est 14 milliards. Peut-être qu'ils vont mettre plus.
Bits, ils avaient mis combien? Je sais plus.
3.
Ce que sait faire Apple, alors que c'est la plus grosse capitalisation mondiale, c'est acheter des petites équipes de 15, 20, 30 personnes et les intégrer dans les équipes d'Apple. Là, il faut voir que si le deal se fait et qu'il se fait bien, ça serait une première pour Apple. Et surtout, ce qui serait une première, c'est qu'ils y arrivent à les intégrer vraiment. Par contre, quand on regarde ce que Apple paye à Google pour mettre un moteur de recherche, ça leur coûte 20 milliards.
Ouais,
donc en fait, regarde juste en termes d'économie, de pouvoir passer de Google à Perplexity, ce que beaucoup des initiés que nous sommes faisons, en fait, ça peut se justifier. C'est probablement comme ça que ce prix de 14 milliards s'est fixé. Parce que en 2000, quand j'avais les derniers chiffres, c'était 14 milliards, je crois que c'est 17, 18 milliards que Apple paye à Google. Donc en fait, le chiffre est cohérent. La raison pour laquelle il est utilisé est cohérent. La question, c'est de savoir si les utilisateurs d'Apple, qui sont quand même beaucoup plus user-friendly, accepteront un outil comme Perplexity, qui est...
Mais est-ce que c'est dans l'intérêt aussi d'Apple de se mettre à dos Google? Parce qu'on est d'accord que si Perplexity arrive dans l'écosystème Apple, ça va énerver Google. Google serait peut-être plus capable de donner 20 milliards par an. Enfin, je veux dire, même si 20 milliards pour Apple, finalement, quand tu vois l'immensité de leurs revenus,
C'est 15 jours de chiffre d'affaires.
Enfin, je sais pas combien de jours c'est effectivement, mais.
Comme ça
c'est
qu'on comptait chez Google. C'est-à-dire, on disait combien de mois de profit ou combien de. Donc
c'est pas grand chose.
Ils peuvent se planter, c'est pas très grave.
C'est pas grave, Damien.
Ah d'abord, c'est déjà arrivé dans le passé qu'Apple achète une grosse marque. Peut-être pas ce montant-là. Je pense à Beats, voilà exactement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient besoin de l'équipe pour pouvoir monter derrière Apple Music. Donc, il y avait une volonté de faire un court-circuit, on va dire un shortcut, un raccourci pour monter rapidement sur ça. Puis bon, on va en Beats derrière, mais finalement ils ont laissé un peu derrière tomber. Mais il y avait cette volonté-là. Je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit. Déjà, ils ont contourner déjà dans le moteur de recherche aujourd'hui de Safari. Enfin, dans Safari, on peut désactiver Google. On peut même déjà ChatGPT. 20 milliards, tu le disais, c'est pas, voilà, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Mais il y a une volonté d'Apple de se positionner sur le marché de l'IA en disant, nous, on a une promesse, c'est la sécurité, c'est la confidentialité des données. Donc, il va falloir qu'ils arrivent à tenir les maillons de la chaîne. Et puis, il y a un dernier élément, tu le disais, Perplexity. Perplexity, c'est ce qu'aurait dû être Google version IA. Quand Perplexity est sorti. Alors que Gemini n'existait même pas, enfin Bard encore à l'époque n'existait même pas encore, ou était encore balbutiant. Déjà, Perplexity fonctionnait bien. Et Perplexity, ils ont une équipe qui est très maligne. D'abord, ils sont bons. Ils arrivent à faire des trucs avec des moyens qui sont pas énormes, mais tout au moins, ils arrivent à au début, ils n'avaient pas leur propre modèle, ils utilisaient d'autres modèles, mais ça fonctionnait bien. Et il y a un mois, ils ont fait un truc vraiment génial, un truc de pirate. Ils ont utilisé Perplexity et pour lancer l'assistant vocal de Perplexity, ils ont dit regardez, il marche mieux que Siri. Et donc effectivement, sans avoir besoin d'appeler les API de l'iPhone, on utilisait l'assistant vocal de Perplexity et on pouvait envoyer un SMS, mettre un rendez-vous, réserver un restaurant, etc., etc. Je trouve que la démonstration de force d'arriver en étant très malin à contourner et à montrer que ça peut piloter un iPhone dans ses grandes fonctions,
ouais, sans le craquer véritablement.
Voilà. Je trouve ça avoir toutes les très malin. Deux, c'est quand même une manière fabuleuse de dire à un acheteur potentiel, hey, ouais, regardez ce qu'on sait faire. Alors que votre machin là, ça fait quand même des années que vous pataugez dans la sauce avec Siri. Peut-être que voilà. Donc je pense que c'est extrêmement malin. Et de fait, ça pourrait même être une très bonne fondation justement pour peut-être enfin un Siri
on parlait de taille d'équipe, c'est environ 1000-1200 personnes Perplexity, donc il faut quand même les intégrer. Après, il faut voir un peu comment
mais
ça va être.
T'achètes des talents aussi.
Ouais, oui, bah, là c'est clair, quand on a vu le prix auquel
quand tu vois les prix, ouais, voilà.
Sam Altman était prêt à faire. Je pense qu'il y a aussi une histoire là-dedans, c'est que Apple est en train de chercher comment se défaire un peu de l'emprise, même si c'est un chèque de 20 milliards. Ils savent bien que les gens vont de moins en moins sur Google. On le voit nous, mais dans la Silicon Valley, enfin les Américains, ils vont beaucoup moins, donc là ils sont en train de préparer ça. Google est quand même empêtré aussi dans toutes les histoires d'abus de position dominante, etc. Donc Apple se dit tiens, il faut peut-être que je diversifie aussi davantage les applis, enfin l'écosystème sur lequel je travaille. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a plein de petits points qui font que en plus il y a une sorte un peu une ADN un peu équivalente avec Perplexity, la transparence, la transparence des sources, puisque comme tu l'as dit, il y a des liens à chaque fois, on peut les cliquer pour voir tout ce qui est dit. La protection des données, Perplexity aussi. Ils communiquent beaucoup autour de ça. Donc voilà, il y a quelques gènes ADN qui se ressemblent un peu.
Si on regarde un peu la géopolitique de la Silicon Valley étendue, hein, d'abord, il faut se rappeler que quand OpenAI est arrivé, la première chose qu'a fait Microsoft, c'est d'essayer de le mettre dans Bing. Et ce que Perplexity a réussi, c'est ce que Bing a raté.
C'est ça.
C'est avant même, c'était pas Google, l'équipe, mais c'est surtout Bing qui a visiblement, parce que les équipes de Microsoft sont pas très copines avec les équipes, enfin, surtout les équipes d'OpenAI sont assez libres. Ils ont pas réussi à faire une intégration flawless. Et ça, c'était ce résultat. La deuxième chose, c'est que c'est quand même le début d'une grande bataille qui existe depuis que Steve Jobs était là entre Eric Schmidt et Steve Jobs. Google a été un mal nécessaire pour Apple. C'était un mal nécessaire sur Maps, parce qu'ils ont été humiliés quand ils ont fait leur Apple Maps. Ils ont mis 10 ans à s'en remettre, etc.
C'est pas encore terminé d'ailleurs.
C'est un problème sur la monétisation. C'est-à-dire, quelque part, il faut voir que quand je veux mettre en avant sur les App Store ou des choses comme ça, des applications, c'est Google qui récupère une grande partie de la manne publicitaire. Donc là, il faut quand même en voir dans la géopolitique de la Silicon Valley. Là, maintenant, Apple se dit, il faut que Google soit un petit prestataire et non pas mon partenaire stratégique.
On se souvient aussi de Steve Jobs qui était furieux d'Android, parce qu'il qualifiait Android de copie de d'iOS. Ça avait été terrible, cette histoire.
Il y a une anecdote sur ça, peut-être. Donc en fait,
j'adore les anecdotes.
Donc en fait, j'étais chez Google au moment de cette discussion et on était au début du lancement d'Android et donc Steve était le mec était au board, hein, donc quelque part il savait tout de comment iOS essaie de se lancer. Android lance 2 ans plus tôt.
Et oui. Bref. Rappelons que Schmidt était au board d'Apple à l'époque.
Oui,
voilà, c'est ça. Bien comprendre.
Et donc en fait, je vois Eric Schmidt et je lui dis mais c'est quoi l'histoire, quoi? Comment tu fais? Et il me dit un truc très intéressant. Il me dit, dans ta vie, tu vas rencontrer une dizaine de personnes exceptionnelles. Quand t'as la chance d'en rencontrer un comme Steve Jobs, whatever the cost, you stick to it. Quoi qu'il arrive, tu restes collé comme une moule. Et donc, c'était ça la logique. C'est, pour Steve Jobs, Eric Schmidt aurait fait n'importe quoi. Alors, il n'était pas très sympa, mais il voulait rester proche d'un mec qui était un vrai innovateur, alors que Google avait quand même du mal à ce moment-là, inventer le téléphone. Et donc, c'était c'est l'histoire bizarre. Mais ce truc-là, là, avec cette bataille, on voit bien qu'Android... alors, aux États-Unis, c'est gagné par Apple, mais dans tout le reste du monde, c'est plutôt Apple qui recule derrière Android, surtout en Chine. Alors, au profit d'Android et de ses versions open source, mais grosso modo, on voit bien quand même que Apple veut vraiment se libérer de Google.
Mais c'est un peu ça, hein, c'est ce qu'on est en train de voir. Ils avaient tous besoin les uns des autres, et là, l'IA est en train de rebattre complètement les cartes. On voit un Meta qui, Zuckerberg, il a jamais trop supporté d'être lié à Apple, mais il va essayer de s'en défaire aussi de plus en plus. Apple va essayer de continuer dans son couleur de nage, Google aussi dans son couleur de nage. Après, si ce rachat se fait, après les investissements de 14 milliards dans Scale AI par Meta, je pense que là, on va arriver dans une nouvelle phase aussi de la valorisation, l'effet d'entraînement pour toutes les startups IA. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas ce que pourrait devenir un Mistral, mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui vont certainement se jouer sur des plus petites startups dont on parle ici assez régulièrement. Je reparle de Mistral, mais il y en a d'autres aux États-Unis notamment. Et là, on va peut-être avoir un effet d'entraînement sur les valorisations. Enfin, là, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Hein.
On arrête là?
Pour finir, juste un élément, deux éléments à avoir en tête. Perplexity, ils ont lancé un navigateur intelligent, Comet, et ça pourrait très bien venir nourrir un Safari +++.
Comme un Chrome, en fait. Hein,
exactement. Deuxième élément, quand ils ont lancé Beats, ils ont racheté Shazam, Apple, pour amener les gens à aller sur Apple Music, et pourtant, tu peux quand même aller ailleurs. Il y a toujours cette logique de, on s'intègre sur le dessus, on est over the top. Je pense qu'ils vont faire la même chose avec Perplexity, quelque part une sorte de moteur de recherche +++ qui permettra d'aller sur Internet, de chercher de l'info et d'amener au service aussi d'Apple, toujours dans cette logique d'offres, de logiciels et de matériel. C'est extrêmement malin si ça se fait.
Ils n'ont pas fait d'annonce sur Siri.
Bon, on verra en tout ça. Tout ça, en tout cas, est encore à prendre avec des pincettes ou conditionnel. Rien n'a été acté. Mais ça bruisse du côté de la Silicon Valley sur ce sujet. Allez, petite pause et on revient. Et on parlera, tu évoquais Meta. Meta qui vient de sortir de nouvelles lunettes connectées. Toujours avec Essilor Luxottica, on va en parler avec Damien, avec Thomas et Frédéric. Vous restez avec nous, petite pause et on est de retour. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de l'actu tech. Comme chaque soir, vous le savez, on prend le temps sur BFM Business dans Tech & Co. On sélectionne quelques titres d'actu tech et on essaie de creuser tout cela avec nos experts qui sont là chaque soir. Thomas Serval, ce soir, PDG de Barracoda. Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos. Et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Après avoir évoqué Tesla, après Apple, un petit coup de méta, les amis. Avec, la confirmation que Meta se lance véritablement dans les lunettes connectées. Les Ray-Ban Meta n'étaient pas qu'un coup dans l'eau, si je puis dire. Ça va plus loin que ça, puisque, en fait, il y a quelques jours, sont sorties ces nouvelles lunettes Oakley. Oakley, qui est une marque, évidemment, qui est sous l'ombrelle Essilor Luxottica. Hein. Encore une fois, vous savez que Essilor Luxottica a énormément de marques de prestige, de fashion, hein, de lunettiers, comme on dit. Et donc, voilà, Meta s'est associé à Oakley pour sortir cette nouvelle paire de lunettes qui est, encore une fois, bourrée de nouvelles technologies, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, d'ailleurs, au Ray-Ban Meta, en tout cas, à l'intérieur. Après, le look, je vous laisse...
Au Snap, je trouve qu'elle ressemble plus au Snap.
Ah, c'est un look Oakley, quoi.
Non, je parle technologiquement, c'est à peu près la même chose que les Ray-Ban Meta. Il y a deux, trois trucs en plus. L'autonomie, je crois que elle filme avec une meilleure qualité, etc.
Il y a une caméra 3K dedans et surtout elles sont pour le moins étanches, tout au moins elles résistent à la poussière.
Pour le sportif.
Et bon, après le look, je vous laisse juge, hein, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Elles sont peut-être un petit peu plus marquées que les Ray-Ban Meta. Mais c'est intéressant de voir que, voilà. Meta accélère et on évoque même une paire de lunettes Prada qui devrait sortir dans les mois qui viennent et qui pourrait intégrer aussi cette technologie Meta. Thomas, ça y est, c'est le nouveau la nouvelle route Zuckerberg.
Le pari de Mark Zuckerberg, c'est que ça va être le troisième device après le téléphone, la montre, etc. Il y a deux choses qui sont pas, enfin là, ce qu'on voit, c'est des choses qui sont déjà faites depuis un an et demi, deux ans. Donc, en fait, Meta est à fond dans la prochaine génération. Ce qu'on a beaucoup vu au CES et déjà de head-up display qu'on voit pas dans celle-là. Là, c'est vraiment en termes d'architecture, on est dans l'amélioration incrémentale. Le design, on veut couvrir, c'est vraiment du marketing, on veut couvrir des segments de marché différents.
Bien sûr, des secteurs.
Notamment aller vers le sportswear, qui est notoirement beaucoup plus à la recherche pour remplacer, comment là, ça s'appelait, les caméras GoPro, et on voit qu'il y a énormément de choses à faire autour de ça, et sur lesquelles, en fait, la sensibilité au prix n'est pas trop élevée, donc des belles marges pour Essilor Luxottica. Ce qui est étonnant, mais ce qui montre qu'il se passe quelque chose, c'est alors qu'un Google est en train de faire des partenariats avec beaucoup de fabricants, là, on voit que le renforcement de lien Meta Essilor Luxottica, on a parlé de prise de de participation.
On ne sait toujours pas.
On voit qu'il se passe quelque chose qui est du ressort beaucoup des marques de luxe où on va dans l'exclusivité. Pour avoir discuté avec l'équipe qui fait ça, parce que nous on avait commencé à faire des lunettes comme ça en 2008. L'équipe a plein d'idées de choses.
Quand tu étais chez Google, c'est ça ?
Non, quand Barracuda était une boîte qui faisait des objets connectés.
Ah oui, d'accord, je croyais que tu parlais à l'époque de Google. Parce que
ça c'était après, mais en fait c'est de 2010. Mais la partie qu'on a.
Déjà chez Barracuda, vous pensiez.
Je sais pas ça. Et en fait, Barracuda a fait les premières lunettes connectées pour Essilor. Et le patron de l'époque à l'époque nous a dit c'est pas mon métier.
On arrête. Et qu'est-ce qu'elle faisait, ces lunettes, à l'époque ? La même chose ? Caméra, Bluetooth ?
Elle faisait exactement ça, parce que nous, on était des spécialistes du Bluetooth. Il y avait deux problèmes qui sont toujours valables et qui sont cachés, mieux cachés. La première, c'est l'autonomie. Ouais. Parce que mine de rien...
C'est un souci avec les Ray-Ban.
Mais en 15 ans, il y a eu quand même des efforts.
En fait, il y avait un problème d'autonomie qui était assez significatif. Et puis, de puissance de calcul... Puisque quelque part, il fallait qu'en fait l'essentiel du calcul se fasse dans le terminal mobile, parce que c'était le seul truc. Marc, aujourd'hui, il pense aussi à ça, parce qu'en fait, l'idée, ce serait de séparer l'écosystème des lunettes de l'écosystème du téléphone qu'il a perdu. Et donc, ça, je ne sais pas trop expliquer ce qui est en train de se passer, mais en tout cas, la vision de Meta, c'est de faire des lunettes un écosystème autonome.
Qui serait pas que, en fait, qui serait même cellulaire, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'elle soit 5G, connectée.
Ça a tous les enjeux. Et là, bien entendu, on voit qu'il n'y a pas la place. Pour que les lunettes marchent, il faut qu'elles fonctionnent avec. Elles pèsent 30 grammes et qu'elles aient 60 degrés d'ouverture. Enfin, on connaît bien ce sujet. 60 degrés d'ouverture de champ. Par contre, ce qu'on va voir là, c'est que vous avez sous la marque Ray-Ban et sous la marque Oxley plein de produits. Vous avez les Chinois qui essaient de savoir combien ils vont payer de droits de douane, mais dès que ça sera à peu près settled, vous allez avoir des lunettes connectées à peu près tous les prix possibles et imaginables. Donc là, il faut s'attendre quand même pour 2026, pour Noël 2025, début 2026, à un océan de lunettes connectées.
Sauf que tu es en train de dire que finalement, tout ça, c'est pas très excitant. Ce qui sera excitant, c'est la génération d'après. C'est ça. Parce que là, ce qui manque terriblement, et c'est vrai qu'on en parle souvent avec Fred, c'est le fait d'avoir de l'information en projection, de l'information holographique. Et enfin, il se dit que les prochaines générations, non pas incrémentales, mais le prochain step technique, ce serait d'avoir justement
ils ont les brevets,
en fait. De l'écran dans les lunettes.
En fait, Zuckerberg l'a montré avec les lunettes Horizon que j'ai testées. Ça existe, par contre ça n'existe pas à un prix, enfin, ce qui est fantastique avec ces lunettes, alors je ne peux pas faire de la pub pour Meta, mais c'est que c'est pas très cher. Il faut voir que quand on te rappelle les lunettes de Apple à 3500 balles,
là on est à 439 euros pour les
Oakley, c'est un cran au-dessus des Ray-Ban, mais globalement quand tu regardes le prix moyen, on est dans une gamme de prix de lunettes de luxe, on va dire
de luxe, bien sûr,
d'une certaine marque, mais c'est pas si, effectivement
le grand succès. Et d'ailleurs Zuckerberg ne croyait pas du tout, c'était fait par des ingénieurs français, enfin c'est assez marrant, c'est vraiment le projet hacké à l'intérieur de Meta. Et pas du tout un truc.
C'est fait par des ingénieurs français.
Qui revient, après le Oculus, c'est le projet qui monte finalement et que sur lequel
les avis.
Mais tu dis des ingénieurs français, il y a des ingénieurs français dans l'équipe. C'est génial ça. Qui travaillaient avec toi à l'époque ou qui n'ont rien à voir?
En fait, on s'était rencontrés quand on voulait faire les lunettes.
Ok.
Et c'est toujours. Enfin, ce rêve des lunettes, il existe depuis 25-30 ans. C'est le rêve Terminator. Le problème, c'est qu'il a été bloqué par Google. Quand Google s'est mis à faire de reconnaissance faciale, le fait que ça s'appelle Google, les Google Glass, ça a tout bloqué chez les consommateurs. D'où le fait que maintenant, dans les designs, ça c'est un des learnings des Google Glass, quand tu filmes, etc., il y a un indicateur lumineux pour au moins qu'il y ait une manière de le savoir. Et ça, c'est devenu un must-have pour les consommateurs.
Et puis, il n'y a pas que ça, c'est qu'en 15 ans, entre Google Glass et maintenant, on s'est tellement habitué à avoir des réseaux sociaux, des gens qui nous filment. Enfin, on est rentré dans une génération de l'image, oui. Et on baigne dans un monde, en dix ans,
en fait, notre société s'est préparée, en fait.
Quand les Google Glass sont sortis, moi, je vois à San Francisco, les petits panneaux, il y avait interdit d'avoir du Google Glass, etc. Mais à cette époque-là, les smartphones modernes sortaient à peine. Il n'y avait pas toutes ces dimensions-là de partage sur les réseaux, de sa vie, etc. Donc, c'est rentré dans les mœurs, même si, bien sûr, il peut y avoir encore des blocages. Et tu as raison, il y a le petit côté, si vous êtes filmé, c'est lumineux. Mais il y a autre chose qui a évolué d'un point de vue sociétal. Et puis, il y a un autre élément, tu parlais du heads-up display. Donc, il y a un élément là, par contre, à mon avis, il y a une frontière qui est intéressante à creuser et à craquer. C'est que, c'est l'usabilité. C'est en gros avoir un truc qui s'affiche devant tes yeux. Dans les Google Glass, c'était intéressant parce que t'avais un petit prisme que t'avais en haut à droite. Alors tes yeux étaient constamment en train de regarder en haut à droite, mais t'avais les informations qui apparaissaient ici. Là, il faut pas que ça te gêne, faut pas que que ça rentre dans le champ, mais quand même que ça te serve. Donc il y a tout un travail d'usabilité qui est hyper intéressant.
Puis il y a autre chose aussi dont il faut parler dans ces lunettes-là et qui vont venir peu à peu, c'est tout ce qui est la partie audio. Apple a essayé joue avec ses AirPods Pro, c'est la nouvelle version et tout ça. Et ces lunettes-là, alors aujourd'hui, c'est des petits haut-parleurs pour répondre au téléphone, entendre un peu de musique et tout ça. C'est pas complètement bien isolé parce qu'on entend quand même.
Oui, parce que c'est la conduction osseuse.
On a quand même une bonne qualité de son pour écouter, pour téléphoner, etc. Mais derrière, c'est tout ce que ça va pouvoir faire aussi en termes de santé. C'est-à-dire, les gens qui entendent mal vont pouvoir avoir des lunettes. Donc, c'est moins, isolant que quand on se met tout un appareillage dans l'oreille, il se passe plein de choses autour de notre crâne, des influx nerveux, électricité, tout ça, pour dire si on a un malaise, si on est en train de faire un malaise, si on a un rythme cardiaque qui s'élève. Les lunettes aussi vont pouvoir les capter. Il se passe plein de choses aussi dans le blanc de l'œil, le diabète. Enfin, il y a plein de choses qui nous alertent. Donc ça va pouvoir envoyer des petits capteurs, dire attention, là il se passe quelque chose.
Fred, il adore le marché de la santé pour toi. À chaque fois, tu me dis c'est le truc qui va.
Ça va venir forcément avec. Oui, là, on parle d'oclé, ça va être le marché du sport. La montre du sport s'est bien développée. Là, moi, j'y crois beaucoup. Ouais.
Donc, en fait, aujourd'hui, ce qui va arriver, tu as tout à fait raison. En indusabilité, on a une combinaison qu'on n'attendait pas, parce que finalement, Google est allé plus loin. Et là, on a reculé. On a dit d'abord, ça doit être des belles lunettes. Donc, la marque a vachement aidé. Elles ont le bon poids.
Ouais.
Elles sont faciles à. Et c'est des belles lunettes avec une marque qui est désirable. Et après, effectivement, l'audio. Quand tu le combines avec tous les chats GPT, ça c'est nouveau par rapport à ce qu'on avait en 2008, ça change totalement tout parce que quelque part, ça crée cette fameuse interface pour laquelle on a embauché Johnny Ive, ces interfaces qui sont AI natives. C'est-à-dire quelque chose qui va comprendre ce que tu fais. Et en fait, si tu regardes la combinaison qui va arriver, ça va être une combinaison entre le son, la voix, etc., mais également les lunettes,
la vision,
qui vont voir des choses, qui permettent déjà maintenant à l'équivalent de Google, c'est ça. Et donc ces interfaces, c'est les 6 milliards d'OpenAI, c'est le sujet sur lequel nous on travaille beaucoup en ce moment, d'inventer de nouvelles interfaces qui soient AI natives. Et donc en fait la question qui est hyper importante, c'est que au départ tous les geeks pensaient qu'il fallait mettre un écran, genre Terminator. Ouais. Il n'est pas sûr.
Non.
En fait, il n'est pas sûr que le produit mass market ça soit pas ça, un peu moins intelligent que ce que ça pourrait être. Regarde les voitures, elles pourraient avoir des head-up display. Il y en a très peu qui l'ont, finalement. Pour la Tesla, par exemple, qui pourrait avoir un head-up display. Finalement, ils ont mis un gros écran. Grosso modo, ton gros écran, ça sera ton téléphone que tu sortiras quand tu auras besoin d'informations. Et donc, c'est vrai qu'on est en train de travailler sur cette usabilité, cette acceptabilité. Et on voit que c'est quand même plutôt, par rapport à ce que tu dis sur la santé, c'est plutôt le luxe, le sport, qui vont être comme les drivers, plutôt que la santé.
Moi, je pense, je suis pas d'accord avec toi sur la partie santé senior. Pas la santé, la santé senior, je pense que là,
Pratiquement tous les seniors
portent des lunettes.
Oui, c'est vrai.
Et aujourd'hui, avec l'audio en plus, avec tous les capteurs de te dire attention, là, il y a une surtension et tout ça.
T'as raison,
j'ai pas le droit d'en parler. Pour la partie senior, je pense qu'il y a un vrai marché.
Tu as raison, il faut pas en parler.
Je peux pas en parler.
Ah, d'accord. Ah, tu peux pas en parler. Donc, ça veut dire, si tu peux pas en parler, c'est qu'on peut en parler, en fait. C'est ça, la question.
Il faut dire entre les lignes.
Non, mais avoue que sur les seniors, on a tout essayé. Bien sûr. La bague, le bracelet, le machin. Le tapis connecté, tout ça.
Fred, la montre, c'est déjà une première approche assez intéressante pour les seniors et pour les lunettes. Alors, je sais pas si mes parents se mettront à porter des lunettes ou une montre. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Mais, lunettes, oui. Mais je regardais les chiffres. C'est intéressant parce que sur les seniors ou même autres.
Le soleil.
Moi, je suis assez halluciné par les chiffres. Franchement, je pensais pas. 4 milliards de personnes portent des lunettes dans le monde. Oui. Franchement, je ne pensais pas compter là-dessus. C'est-à-dire que la moitié de l'humanité porte des lunettes. Alors, pas seulement des lunettes fashion, mais des lunettes de vue.
6 milliards de téléphones vendus, 6 milliards de brosses à dents.
Voilà, donc on est quand même sur un marché, honnêtement, quand j'ai regardé les chiffres, je ne pensais pas être là-dessus. Et donc, on est effectivement sur un marché qui est très mass market.
Mais... Tu sais qu'aujourd'hui, les lunettes deviennent un accessoire de mode. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui portent des lunettes alors qu'ils n'en ont pas besoin.
Oui,
ça fait partie de leur look. C'est ça qui est étonnant. Mais Thomas, quand tu expliquais que la vision après de Mark Zuckerberg, c'est de se défaire de ça et d'avoir tout là-dedans, c'est pas pour tout de suite, ça, parce que il faut beaucoup plus d'autonomie, il faut intégrer donc de la 5G, il faut malgré tout, si tu n'as plus ça, il faut qu'il y ait un semblant d'écran ou d'affichage pour que tu puisses, par exemple, lire des informations. Tout ça, c'est compliqué, non ?
Enfin, oui,
c'est
pas... il a quand même cramé 44 milliards en hardware depuis 10 ans. Alors, initialement pour les casques, mais dans la réflexion qu'il y avait sur les casques de réalité virtuelle, il y avait toutes ces problématiques qui étaient déjà traitées. En fait, là, on passe de la réalité virtuelle à la réalité augmentée, mais comment tu les contrôles, comment tu fais des interfaces avec les mains, tout ça, c'était des choses qui, si tu regardes les Oculus, il y a des écrans, il y a des caméras, et ce savoir-faire sur les caméras, tu le récupères directement des dernières versions d'Oculus.
Après, François, il faut aussi voir un truc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, il fait il fait un système à la Apple. Il crée un écosystème. Puisque tu as du Meta AI, donc tu vas convoquer le petit rond bleu pour parler. Donc tu as une porte d'entrée vers un univers Meta qui est connecté par quoi ? Bien sûr, les réseaux sociaux qu'on connaît. Mais c'est pas ça la clé. La clé, c'est WhatsApp et c'est Messenger. Et Instagram, puisque Instagram a annoncé qu'ils allaient faire un Messenger séparé d'Instagram. Donc on voit bien la logique de discussion finalement qui est en train de se créer, et là t'as tes haut-parleurs, t'as ton petit AI, vas-y, envoie un message à un tel, mais c'est pas que par WhatsApp,
je trouve que même,
et ainsi de suite.
Ouais, mais tu parles d'écosystème, je trouve qu'il est pas si puissant que ça par rapport à ceux d'Apple ou de
WhatsApp,
Google.
Même, sérieux, non, WhatsApp, non,
parce ouais, mais pas, alors non, mais je te parle de l'écosystème dans son intégralité.
D'accord, donc je parlais en termes de
j'utilise plus ChatGPT sur mes lunettes, je vais pas du tout WhatsApp et tout ça, hein. J'utilise téléphone, enfin le truc de loisir. Et sinon j'ai craqué le lien avec, enfin je sais pas craquer, j'ai
non, t'as connecté, oui.
J'ai connecté ChatGPT et j'utilise ChatGPT, hein. Je vais pas du tout sur WhatsApp.
Thomas,
sur cette notion d'écosystème, en fait, en termes de maturité, la plus mature de toutes les boîtes sur l'écosystème développeur, c'est Apple. On en a parlé dans la WWDC. Après, c'est Microsoft sur les développeurs. Et effectivement, Meta n'a pas la culture développeur ouvert.
C'est vrai.
Ils ont beaucoup de mal à faire ça. D'une certaine manière, ils ont la même culture qu'avait Steve Jobs avant qu'on le force
à s'ouvrir à l'App Store.
À l'App Store. Et donc, j'espère, enfin, en tout cas, s'ils veulent réussir, ça fera partie des gros enjeux. C'est en train d'arriver. Si on regarde quand même sur Meta AI, là maintenant, d'abord, ils ont rebrandé l'application Wayfarer en Meta AI. Ils ont fait 5 partenariats avec Spotify, etc. Mais cette idée, et ils ont le même problème qu'avec les Apple Watch. En fait, le problème, c'est que la batterie, elle est quand même très limitée.
Ouais.
Et donc, contrôler, avoir des API pour faire en sorte que le développeur te pompe pas toute la batterie, parce que la première des choses qui est quand même chiante, c'est que tu portes tes lunettes toute la journée. Si à la moitié de la journée, c'est batterie.
C'est vraiment le souci aujourd'hui. Hein.
Et c'est d'ailleurs, moi j'ai trouvé que le truc le plus malin, c'est le porte-lunettes qu'ils ont
fait,
qui est extraordinaire.
À l'image des trous wireless des écouteurs,
et qui,
en fait.
Et qui par contre recharge hyper vite. C'est autant la lunette se décharge vite si tu les utilises intensément, autant une fois que tu les mets dans l'étui, en 10 minutes, tu arrives déjà à regagner 30%, 30% de batterie. Quoi. C'est impressionnant ça.
Et d'ailleurs, les nouvelles OA clés gagnent justement en autonomie. Hein. Je crois qu'on gagne 3 heures d'autonomie en plus par rapport au Ray-Ban.
Mais les branches sont un peu plus épaisses.
Et voilà, elles sont un peu plus épaisses, donc il y a un petit peu plus de batterie à l'intérieur.
Les règles pour ces produits, c'est simple, c'est qu'en fait, il y a la loi de Moore qui fait que de plus en plus, tu feras de plus en plus de choses sur tes lunettes. Néanmoins, les batteries fonctionnent, s'améliorent d'une manière linéaire.
Ouais.
Donc, tu n'auras jamais une batterie
dans
2 ans.
C'est dingue, on n'a pas encore craqué le problème de l'énergie.
Si, mais c'est la chimie qui te pose problème. Donc, tu vois, à un moment donné, tu ne veux pas... Les silicium, tu sais que tu vas faire des gravures de plus en plus fines. Mais la chimie, ce qui fait la batterie, c'est lent.
On n'a pas trouvé, on va dire, un stockage plus efficient.
Alors, en fait, c'est un petit problème. C'est un problème que j'essaie d'expliquer à mes clients à chaque fois. C'est que, en fait, une batterie, tu dois stocker de l'énergie sur une petite surface. Bon. Mettre beaucoup d'énergie dans une petite surface, quand tu sais que l'énergie doit se libérer, c'est fabriquer une bombe. C'est pour ça que t'as pas le droit d'avoir des batteries hyper puissantes, etc. Donc en fait, il y a une sorte d'arbitrage entre la safety, On peut faire des batteries oui, hyper puissantes. Elles te pètent à la gueule.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, réglé tous ces problèmes-là. Non, tu vois, on arrive à régler des problèmes incroyables en termes de miniaturisation, etc. Mais la maîtrise de l'énergie, le stockage de l'énergie, ça, on a l'impression qu'on est un plafond de verre, en fait.
Ça jouera plus sur les développeurs qui vont développer des choses beaucoup plus frugales, quoi. Après, effectivement, on est limité par la physique, la chimie. Enfin, voilà, il y a un moment.
C'est pour ça que les améliorations sur l'autonomie, elles viennent des softs qui se tournent sur les puces et non pas des batteries qui sont juste proportionnelles à leur taille.
On enchaîne avec un autre sujet. Est-ce que vous avez entendu parler de ce projet Crystal Land ? Oui. C'est en Arizona. Et c'est SoftBank qui préparait ce méga projet à 1000 milliards de dollars, dont TSMC serait l'un des partenaires. Alors, il y a beaucoup de conditionnels, beaucoup de flou dans ce projet-là. Mais il y a des chiffres quand même qui interpellent. 1000 milliards de dollars. D'un côté, donc SoftBank
et TSMC.
Voilà. Et on se dit, donc, ça serait évidemment une espèce de booster de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup aussi de robotique dans ce projet. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Même si on n'a pas beaucoup d'informations, c'est un complexe industriel. Ouais.
En fait, ils veulent reproduire un complexe qui est à Shenzhen. Ils veulent reproduire exactement le même. Alors, TSMC a déjà investi. Ils ont investi 65 milliards sur deux sites en Arizona. Ils ont investi déjà. Ça, c'était du temps de Biden, quand il y a eu le CHIPS Act et tout ça. Là, pour se mettre un peu dans les petits papiers, mais c'est le coût. Et puis, bon, l'utile à l'agréable. Donc, ils ont investi 100 milliards. Et puis là, c'est donc Masayoshi Son, qui vient, le patron de SoftBank, qui vient monter ce projet. Alors, il est déjà dans l'autre projet de Stargate à 500 milliards avec Oracle, OpenAI.
Il est sur 12 milliards. J'ai l'impression que c'est à chaque fois.
Pour Stargate, il y a MGX derrière qui sont les fonds des Émirats. Et puis là, il va aller chercher, il va aller monter. Il a son propre fonds, il va aller chercher tout ça. Et puis, TSMC va jouer derrière.
1000 milliards, Fred. Où est-ce qu'on trouve 1000 milliards?
1000 milliards, tu vas chercher dans les fonds saoudiens, tu vas chercher dans
les fonds. En fait, c'est la spécialité de Mr. Son, c'est d'aller vendre le futur aux saoudiens. Ouais. C'est comme ça qu'il avait levé son précédent fonds qui s'est très mal fini, puisque il avait investi dans. Vision Fund. C'était, ouais. Il avait pris chez les saoudiens 100 milliards. Ouais. Ils ont fait n'importe quoi. Donc moi, les experts...
Mais justement, chat échaudé craint l'eau froide. Ça va être compliqué.
C'est pour ça que je suis épaté. Il a du talent, ce garçon, pour arriver à ses projets.
Parce qu'il s'est refait en faisant des opérations financières sur les produits dérivés. Donc, quelque part, il ne gagne pas nécessairement de l'argent avec ses projets, mais sur d'autres. Mais ce qui ressort, c'est qu'en général, c'est des projets d'effet d'annonce. L'idée, c'est de dire, on veut créer une dynamique. C'est comme quand on lance des grands plans en France sur l'IA, etc. En général, ils recyclent l'argent qui a déjà été investi.
Okay.
Les trucs importants, c'est qu'en général, TSMC sait qu'il y a un risque existentiel pour eux de mettre trop de billes aux États-Unis. Donc, ils disent oui à tout, mais ils savent que le jour où ils permettent aux États-Unis de ne plus être dépendants de Taïwan, ça veut dire que les États-Unis les défendront pas. Donc, derrière, le fait qu'ils jouent...
C'est de la diplomatie, tout ça.
C'est de la diplomatie économique. Donc, et c'est pareil pour monsieur du Japon. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, dans les papiers de Trump, il faut qu'il est taïwanais. C'est essentiel. Mm-hmm. Pour le Japon, parce qu'on a besoin aussi qu'ils nous défendent. Donc, il faut voir d'ailleurs cette annonce d'investissement étranger de la Trumpologie, c'est-à-dire de la volonté d'être dans les papiers du gouvernement américain, soutenu par les États avec des entrepreneurs iconiques. Pour faire en sorte que on ait encore la protection américaine.
On achète sa couverture militaire ou sécuritaire, en tout cas à 1000 milliards. Voilà, est-ce que ça les vaut? Sans doute. Et puis il y a autre chose aussi, TSMC, tout ce qui est développement 3 nanomètres ou moins, aujourd'hui ils le gardent précieusement à Taïwan.
Non, mais donc, ils ne le bougeront pas,
parce que ça c'est leur assurance aussi au cas où un jour
quand je discute avec les gens qui fabriquent ces usines,
quelques ambitions concrètes.
Quand je discute avec ces gens qui font des usines, le truc qui est quand même aberrant et on ne le répète pas assez, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas d'usine de semi-conducteurs aux États-Unis aussi grosse que celle qui existe à Taïwan. C'est que pour faire, il faut faire beaucoup d'ingénieurs, fabriquer beaucoup d'ingénieurs qui travaillent 6 jours sur 7, 18 heures sur 24. Ces ingénieurs, ils n'existent pas aux États-Unis.
Ouais, c'est dingue.
Il n'existe pas aux États-Unis, c'est des usines qu'on est en train de créer partout.
Mais en même manufacturing. Tim Cook, il l'a dit il y a 5 ou 6 ans.
Oui, il a dit il n'y a pas les compétences.
D'ici, je vais en Chine, c'est pas parce que c'est seulement parce que c'est moins cher, mais c'est parce qu'ils sortent je ne sais combien de dizaines de milliers d'ingénieurs par an. Et là-dedans, il y a des très bons, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais voilà, au global, j'ai une main-d'œuvre d'ingénieurs.
Et puis, c'est une société qui n'a pas le même rapport au social, au travail, etc. Je veux dire, voilà. Je vous rappelle qu'à Shenzhen, il y a l'usine et puis juste à côté il y a des dortoirs et c'est comme ça.
Des usines chinoises.
J'ai pas entendu beaucoup de grèves dans les usines chinoises.
Non, c'est rare.
Américaines
en général.
Oui, voilà. Il nous reste quelques minutes. Autre sujet d'actualité, cette fois-ci, on revient en Europe pour parler de notre indépendance numérique. Vous savez que c'est un sujet qui, en plus, en ces périodes, on va dire, tendues géopolitiques, revient sur le devant de la scène. Il faut qu'on ait notre souveraineté, et notamment sur le cloud. Et c'est ce que la Commission européenne étudie actuellement, avec la possibilité de migrer hors du cloud de Microsoft une partie de ses services, parce qu'on peut imaginer que la Commission européenne stocke beaucoup de choses dans le cloud, hein, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ils sont chez Azure, bon, c'est vrai que ça la fout un peu mal. Donc, ils se disent, où est-ce qu'on pourrait aller? Eh bien, notre Frenchie OVH Cloud serait dans la course, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, on va dire, action-réaction un peu violente, ou est-ce que c'est plutôt pertinent, Thomas?
C'est surtout symbolique. La Commission européenne stocke ses données par rapport aux entrepôts de données des opérateurs ou des grosses entreprises. C'est que
c'est pas grand-chose.
Par contre, c'est un signal qui est quand même raisonnable. On l'a eu le cas dans les clouds de la santé. Bon, la problématique, c'est toujours quel service et quel rapport qualité-prix. Maintenant, par rapport aux services de base, de stockage et de cloud, OVH fournit un service d'une qualité acceptable. Elle n'est pas compétitive par rapport à un Azure et un AWS, mais on n'a pas toujours besoin de rouler en Rolls-Royce pour pouvoir bien rouler sur la route. Donc, je pense que c'est important que les Européens, et en tout cas ceux qui donnent de l'argent aux Européens comme la Commission, commencent par utiliser ces outils. Toutes les manières, il n'y a pas de meilleure manière de progresser que d'avoir des clients. Et donc, même si on n'est pas à jour, avoir un client aussi exigeant, ça améliorera OVH Cloud rendre de meilleurs services.
Ça va les obliger.
T'as pas qu'OVH, hein, t'as aussi Ionos, tu as Aruba, il y a Scaleway qui sont sur les rangs. C'est symbolique, mais c'est un début. Je pense que Thierry Breton doit au bord du petit lait. Mais par contre, quel retard. Mais ça fait 10 ans que tous les sociétés françaises et pas que de cloud voudraient qu'il y ait une volonté d'utiliser du cloud européen, et d'un seul coup la Commission européenne se réveille. On est en train d'étudier le cas.
Après, par rapport aux entreprises, la Commission européenne, elle est située en Europe, hein, par défaut. Quand tu as des grands groupes internationaux, ces grands groupes internationaux, ils ont quand ils sont en Asie, ils prennent du cloud asiatique. Quand ils sont aux États-Unis, c'est du cloud américain, et par défaut ils viennent prendre du cloud occidental. Donc après, moi je trouve que c'est un excellent signal que ce soit la Commission européenne qui le donne. L'État devrait aussi se bouger, parce que comme tu dis, pour beaucoup d'applications, on n'a pas forcément... Moi quand j'entends toujours des gens qui disent mais Azure, ils ont des services et tout ça, mais des services pour faire quoi? Il y a des applis. Après, ce qui va être compliqué, c'est la migration des applications. Donc, soit on décide de redévelopper des choses, et c'est peut-être le moment où il y a un DSI un peu intelligent à la Commission européenne qui dit, écoutez, il y a pas mal d'applis qui arrivent d'applications qui arrivent en fin de vie. Plutôt que de les redévelopper pour du cloud, développons-la natif OVH Cloud, ou commençons l'intégration intelligente. Donc, je pense qu'il y a aussi ça aussi qui arrive à ce moment-là. Il y a peut-être des choses qui allaient devenir obsolètes. Et puis, allons-y, quoi. Après, oui, il y a un risque, il y a un retard pris, il y a un risque, ils sont peut-être moins innovants, ils seront peut-être plus chers parce qu'ils massifient moins qu'un Google qui est à travers,
le monde. C'est quand même, c'est leur lobbying a mal fonctionné, là, cette fois-ci. Hein, parce que c'est qu'ils dépensent quand même des millions d'euros chaque année, nos chers GAFAM.
Une partie des services.
Si tu veux, comme disait Thomas, il faut lire entre les lignes. On n'a pas trop les détails.
Tout le monde est en train de mettre... Tu vois, s'il n'y a que 20% des infras qui sont dans le cloud, donc il reste 80%. OVH va en prendre 20. ça en fait, tu vois, quand même 40% qui
reste. Quand tu réfléchis que tu es un DSI, que tu dois maintenir un parc applicatif... J'ai lancé Azure en France, donc j'ai vu comment il était déjà difficile. Aujourd'hui, on est dans un système où ce que doit faire un DSI ou les ils ont d'un côté des problématiques de stockage. Où est-ce que je stocke mes données? Et là, c'est clair que sur le stockage, bah, il n'y a pas beaucoup de différence entre une solution A et une solution B. Ça, c'est le truc facile. Parce que même que ce ne soit pas un cloud, que ce soit un serveur dédié, on sait faire. Après, dès lors qu'on a des applications, c'est-à-dire, là, elles sont codées dans un langage, les applications. Oui. Souvent dans du Java ou du .NET, etc. Sur des serveurs qui sont du Java, de l'IBM, etc. Donc, quelque part, là, on commence à rentrer dans la complexité de bouger les applications.
Oui. C'est des millions de lignes de code. Hein.
Oui. Ouais, ouais. Et donc là, bah, c'est la grande force qu'a eu Microsoft. Hein. Grosso modo, la plupart des gens ils travaillaient pour leur PC, donc ils ont développé dans des architectures qu'on a vendues, qui s'appelaient .NET, etc. Donc, bouger une application... avec ce qu'on appelle un pass, c'est très très peu coûteux. Il n'y a pas besoin de reblocher des développeurs qu'on n'a pas, parce que quand tu veux développer une nouvelle application, c'est toujours long, etc. Donc quelque part, c'est vrai qu'il y a un effet d'aubaine qu'offrait Azure dans sa migration des systèmes Microsoft que la commission utilisait comme tout le monde. On a tous des PC, il n'y a pas d'OS européen. Donc quelque part, ils ont migré dans le cloud assez naturellement. Là, faire ce move peut faire du sens. Ce qui a posé problème, et c'est heureux que OVH se bouge, c'est qu'il y a eu un déficit d'investissement depuis 10 ans sur la partie qu'on appelle plateforme as a service, c'est-à-dire celle qui facilitait la migration des applications. Mmh. Aujourd'hui, on arrive, grâce à la virtualisation, il n'est pas impossible que ce qui va se passer chez OVH, je ne connais pas la solution, ce soit des logiciels Microsoft virtualisés, mais qui permettent que les applications soient sur des serveurs. Donc, quand on regarde dans le détail de la technologie, de la technique, on aime bien ce genre de choses. Ce qui est important, c'est d'avoir le sentiment que les clients publics sont sensibilisés à ça, que les entreprises européennes investissent dans les technologies qui vont aider leurs clients à migrer vers leurs serveurs. Et ça, OVH fait partie des sociétés qui est les plus efficaces en Europe, mais qui n'a pas fait le job sur beaucoup de ces sujets-là et qui a toujours été un peu en retard parce qu'ils n'avaient pas les capitaux, ils n'ont pas été cotés assez, ils n'ont pas eu assez de gros contrats européens de défense, etc. Mmh. C'est dommage.
Et puis à côté de ça, t'as quand même des politiques qui ne se posaient pas trop la question de la souveraineté. Quand tu vois qu'Agnès Buzyn elle-même reconnaît qu'elle a choisi Microsoft parce qu'elle avait lu dans une note qu'il fallait faire ça. Il n'y a pas non plus longtemps, les politiques pendant longtemps n'ont pas eu cette sensation, cette volonté d'avoir une sorte de souveraineté nationale.
Là, c'est la culture du numérique.
Enfin, moi, j'ai été proche de ce choix sur le S-Data Hub. Ouais. Le problème, si tu veux, c'est que d'un côté, on te dit... et c'est impossible pour un DSI, je te donne un budget de 10 millions parce que l'État n'a pas d'argent pour stocker toutes les données, etc. Et le mec, il se dit, en fait, avec 10 millions, soit je dépense de l'argent pour juste coder et je mets sur Microsoft parce que comme ça coûte le coût marginal, soit j'aurai pas la solution qui sera prête parce que les consommateurs et les patients, ils seront pas là. C'est là où, en fait, on n'a pas un écosystème vertueux, où on n'a pas assez investi.
On se donne pas les moyens, en fait.
Oui, mais on donne pas les moyens non plus d'atteindre. On va pas rentrer là-dedans, mais on pourrait aussi dire que l'État ne donne pas les moyens, effectivement, pour atteindre une mission qui serait une mission régalienne. Mais ça, c'est encore autre chose.
Ouais, c'est un autre débat. En tous les cas, l'idée, c'est que la Commission européenne puisse garder acquérir son autonomie numérique, en quelque sorte.
La souveraineté, ce jeu de la souveraineté, ça va se jouer sur les données. Hein, ça va être data space européen, sectoriel et tout ça.
C'est un premier pas qui est franchi, là, avec cette volonté. On verra si c'est OVH Cloud qui remporte la timbale, comme on dit. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos. À très bientôt.
À très vite.
Merci Thomas Serval, PDG de Barracoda, et Fred Simotel, journaliste à BFM Business. C'est toi qui prends les rênes de Tech & Co d'ailleurs demain soir, Fred. Regarde, c'est moi. C'est toi, c'est bien sûr qu'il le sait. J'espère.
On est bien le 24 juin.
C'est bien ça, c'est bien noté. Vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble dans ce Tech & Co avec, je le disais, une invitée exceptionnelle. La première femme européenne à être allée dans l'espace sera sur le plateau de Tech & Co. Claudie Aigneret nous rejoint dans quelques minutes, juste après le Tête Flash et notre rendez-vous avec la rédaction de Tech & Co comme chaque soir. Très belle soirée et à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.